Samplez-moi.
Bienvenue dans Samplez-moi. Cette semaine, continuons d'évoquer les rapports nombreux qu'a David Lynch avec la musique. Les emprunts faits au film d'une part, avant de conclure de manière plus générale avec son monde musical. Références, hommages, et même Lynch musicien. Cette deuxième partie d'entretien avec Thierry Jousse, spécialiste cinéma et musique, ça tombe bien, reprend là où on l'a laissé la semaine dernière, c'est-à-dire à Elephant Man, qui on va le voir est samplé par le King of Pop.
I'm looking for Mr. Frederick Treves, please walk.
Étonnant de la part d'un artiste comme Michael Jackson d'utiliser un sample peu habitué à l'exercice. Dans cette chanson, cependant, il reprend un extrait d'Elephant Man. Jackson a parfois avoué s'être identifié au personnage de John Merrick. Lynch est le cinéaste de l'étrange et du freak par excellence, un héritier de Todd Browning peut-être.
Dans Elephant Man certainement, il y a un héritage direct, oui, Freaks en particulier, de d'autres films de Todd Browning, c'est évident. Après, lui, il se déclare jamais tellement cinéphile, donc il cite un peu toujours les mêmes films, certains films de Fellini, certains films de Sunset Boulevard, de Billy Wilder, des choses comme ça. Donc il ne remonte pas si loin, je pense, je ne suis pas sûr qu'il ait une connaissance précise du cinéma Todd Browning.
You heard what the doctor said?
Know then that it is the year 10,191.
Know then that it is the year 10,191.
Autre film culte, l'adaptation de Dune de Frank Herbert, film de commande, on le rappelle, un chef-d'œuvre pour certains, nanar pour d'autres. Ce long métrage est pourtant devenu un objet de culte et se retrouve par exemple dans ce mix du pro du sample Uncle du label Mowax, dont DJ Shadow a fait les plus belles années. Alors, musique du groupe de Toto, Sting en acteur, décidément David Lynch, un cinéaste avant tout musical.
C'est pas la bande-son que je préfère de son œuvre, c'est pas non plus le film que je connais le mieux. Moi, je fais pas partie des amateurs forcenés de ce film, qui a des certaines beautés, mais dont le récit est quand même un peu compliqué à comprendre par moments, parce que le film a été aussi coupé pas mal. Il faut voir que c'est un film que Lynch n'aime pas non plus, parce qu'il a vécu très mal. Lui, il fonctionne quand même sur ce qu'on appelle en anglais le final cut, c'est-à-dire la maîtrise jusqu'au bout de la version de son film, quoi. Donc là, il l'avait pas. Il était à la tête quand même d'une grosse production, après avoir fait un premier film quasi expérimental, film de fin d'études, bon, fait avec des bouts de ficelle, puis un deuxième film plus cher, mais quand même avec une forme de classicisme et pas non plus quelque chose qui a été pharaonique de Elephant Man. Et puis, il se trouve à la tête de cette super production quand même, qui est Dune, qui avait un projet de Jodorowsky qui a été documenté depuis, qui n'a lui pas été tourné, et qui était un projet assez délirant. Donc celui de Lynch l'est sans doute un peu moins, mais on sent qu'il n'est pas entièrement à l'aise, me semble-t-il, dans cette économie-là, à ce moment-là, avec ce producteur de Dino De Laurentiis qu'il va retrouver pour son film suivant, Nouvelle Vette, là où il va imposer de manière implicite d'abord un budget modeste pour le cinéma américain, et puis ensuite la possibilité d'avoir le final cut. l'expérience musicale de Dune, que j'ai pas non plus en tête de façon aussi explicite que d'autres films, je la trouve très datée, quoi. C'est-à-dire, du coup, elle est très années 80. Alors après, il y a aussi un retour des années 80 musical depuis un moment, hein, donc on peut expliquer ça. Ça explique aussi peut-être la fascination qu'exerce ce film et ses bandes-son sur un certain nombre de gens. Moi, je fais pas partie des gens qui réhabilitent en permanence les années 80, même si je trouve aussi des choses très intéressantes. Hein, mais en tout cas, ce que je suis frappé, c'est-à-dire que moi, j'apprends aussi des choses dans ce que vous dites, c'est-à-dire que je suis frappé par la fascination, par le nombre de samples. Ça ne me surprend pas autre mesure, mais j'avais pas fait ce travail que vous avez fait, donc je suis quand même frappé par le nombre de samples musicaux, mais aussi des films. C'est-à-dire que c'est là, on voit aussi l'influence d'un cinéaste à ça, c'est-à-dire le rayonnement de Lynch, il est aussi là-dedans. Quoi. C'est la manière dont il est récupéré, dont il est samplé, dont il est cité, dont il est malaxé par tout le monde, quoi. Enfin, par des musiciens, mais peut-être par des cinéastes à un moment ou à un autre, mais aussi surtout d'abord par des musiciens. Et ça, c'est quand même assez fascinant parce que c'est le symptôme, enfin, c'est la preuve de l'influence que Lynch a exercée sur les 20 dernières années. Quoi.
Remember, walk without rhythm and we won't attract the worm. It will go to the thumper. Remember, walk without rhythm and we won't attract the worm. It will go to the thumper.
I'm ready.
Justement, parlons de cet objet de culte avec Blue Velvet et la fameuse scène où Dennis Hopper part en délire psychotique et violent dû à sa consommation de drogue. Alors Lynch, dont le Dune, on l'a dit, un film de commande à gros budget, lui avait laissé un goût amer, voulait revenir à un film à petit budget et ainsi garder son contrôle artistique, on en a parlé. Blue Velvet, son œuvre majeure.
Pour moi, en tout cas, ça fait vraiment partie des œuvres majeures de David Lynch que j'ai découvert à sa sortie sans vraiment l'apprécier totalement, un peu décontenancé là encore, aussi décontenancé sans doute par l'enchaînement des films de Lynch que j'avais tous vus et qui ne savait pas bien où il allait. Je vois Blue Velvet, je pense que je m'empêche d'apprécier ce film parce que je ne comprends pas complètement où il va en venir. Alors, au fond, pour moi, c'est un des films les plus visibles de Lynch aujourd'hui. Quand je le vois, pour moi, c'est un film quasi classique dans son récit, même s'il est tordu, mais il y a quand même une espèce de linéarité à l'intérieur de laquelle il se passe beaucoup de choses bizarres et terrifiantes dans certains cas, mais malgré tout il y a le côté film noir, il y a le côté années 50 qui a marqué tout à l'heure donc l'arrivée de Bad Adamantine dans son univers. Il y a un côté plus accessible au fond dans ce film que dans certains des films de Lynch. Ça fait partie, en tout cas pour moi, c'est peut-être le film le plus parfait de Lynch, c'est-à-dire celui où il a complètement abouti ce mélange entre un récit classique d'une certaine façon et tout cet univers qu'il introduit à l'intérieur de ça.
Shut up! It's Daddy, you shithead! Where's my bourbon?
And you fucking look at me.
Cette liberté qu'il a de faire advenir des personnages plus que bizarres. Et puis il y a cette scène aussi musicale là, qui est géniale avec Dean Stockwell, non? C'est ça, qui chante en karaoké le In Dreams de Roy Orbison. Là encore référence aux années 50, évidemment, qui est quand même une scène moi qui m'a beaucoup marqué. Là du coup parler des performances live dans les films de Lynch, celle-ci pour moi une des plus marquantes. Enfin live, je ne sais pas si elle est complètement live. Enfin et en plus je trouve l'idée du karaoké. Génial à ce moment-là, parce que c'est vraiment un moment comme si la musique venait investir ce personnage théâtral. Enfin, il y a quelque chose de aussi de l'ordre du rêve à ce moment-là, ou du cauchemar.
Get ready to fuck! You fuckers, fucker! You fucker! Don't you fucking look at me!
C'est le film qui atteint une forme d'équilibre global sur tous les fronts. Et c'est pour ça que le film, d'ailleurs, pour moi, a extrêmement bien vieilli. Parce qu'à la fois, il est années 80, puis en même temps, comme il est très en référence aux années 50, du coup, on ne sait pas bien dans quelle époque on est. Et du coup, ça passe très très bien 45 ans après.
Don't you fucking look at me! You fucking look at me! Stay alive, baby. Who is this fuck? What's your name, neighbor?
Jeffrey.
He's a good kid, Frank. Shut the fuck up!
Why me, Alice? Why choose me?
Autre scène mythique, empruntée cette fois à l'obscur Lost Highway, qui finalement colle assez bien à l'univers de Marilyn Manson, aussi présent sur sa BO, échantillon logique donc. A posteriori, comparé au génial Mulholland Drive, ce film de 97 pouce l'énigmatique à son paroxysme, magnifié par sa bande-son.
On sortait d'une période où Lynch avait été absent quasiment pendant 5 ans. Après un échec commercial et critique hein, de la sortie Twin Peaks Firewalk With Me, qui est un film que j'adore aujourd'hui mais qui a été mal reçu à l'époque et que moi-même j'ai reçu de façon un peu mitigée lors de la projection à Cannes, qui était un échec total. Enfin bon, le film a été vraiment très mal reçu. Bon. Donc Lynch avait disparu des radars, on ne savait pas très bien ce qu'il était devenu. Il avait fait quelques bricoles pour la télé, une série avortée, là, on dit, bon, bref, mais enfin, il n'y avait pas de film en perspective claire. Et là, tout d'un coup, il revient avec Lost Highway, et là, ça a été une bombe quand même pour moi. C'est-à-dire que vraiment, le film a complètement secoué. Et je me rappelle parce que je l'ai vu 3 fois à l'époque, 2 fois en projection de presse, puisqu'à l'époque, j'avais accès à ces projections de presse, et je crois que je suis retourné le voir une 3e fois en salle. J'ai écrit un texte qui n'était pas tout à fait la critique du film, mais qui était un espèce de développement un peu sur ce qu'était le film. Donc je trouvais que le film avait un statut d'objet fascinant, avec cette construction en 2 blocs. Tout d'un coup, au plein milieu, se fissure pour aller vers un changement de personnage. Alors, c'était pas la première, peut-être pas vraiment la première fois dans l'histoire, voilà, mais malgré tout, c'était quand même extrêmement marquant. Avec un imaginaire là encore de film noir californien, l'univers de la Californie, mais complètement hanté par des pulsions destructrices. Bon, mais beaucoup avec l'imaginaire encore du film noir des années 40-50, je trouve. Beaucoup avec ça dans le personnage de la femme fatale, Patricia Arquette, enfin bon, c'était avec un côté plus sexuel hein, que dans les films des années 50, ou plus explicitement en tout cas sexuel, puisqu'il y a toujours une dimension sexuelle dans les films noirs, mais là elle est beaucoup plus exprimée, et en effet avec une bande-son qui m'avait particulièrement fasciné. Et là, il diversifiait, on sentait qu'il commençait vraiment à s'approprier complètement. Donc, il y a en effet du Marilyn Manson, du Badalamenti, du Bowie, on en a déjà parlé, du Barry Adamson, on en a déjà parlé. Enfin bon, il y a du Jobim, standard de Jobim en version orchestrale. Oui, il y a une palette qui s'élargit et qui participe de la fascination du film. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le film, c'est pas forcément le film que je préfère de David Lynch, mais la première partie, je pense que la 40 premières minutes du film, c'est-à-dire avant que ça bascule dans autre chose, et peut-être que je préfère de tout Lynch, parce que là, il y a une tension incroyable. Avec très peu de choses au fond, quoi. C'est-à-dire, c'est une histoire de couple finalement, dont on dit, enfin, de crise du couple, mais qui est évidemment traversée par d'autres choses plus mystérieuses, plus étranges, on peut dire plus élargies. Et je trouve qu'avec très peu de choses, et là aussi avec du son. Parfois très minimaux qu'on entend à peine, qui sont comme des fréquences qui arrivent. Il y a des choses comme ça, notamment dans les scènes de couple. Il y a quelque chose de très. Il arrive à faire quelque chose d'extrêmement tendu, marquant, avec finalement un matériau qui pourrait paraître assez pauvre presque à la base. Ce qui est peut-être aussi sa marque de fabrique là aussi. C'est-à-dire qu'il est. C'est aussi un alchimiste, hein, Lynch, qui transforme un peu le plomb en or, quoi. À travers la musique notamment, cette capacité à transfigurer, on pourrait dire, son matériau. Et sans second degré, encore une fois, sans vraiment comme un artiste un peu sauvage.
Maintenant, les passerelles directes ou indirectes entre David Lynch et la musique, à commencer par ce titre de General Electric, intitulé David Lynch Moments. L'adjectif lynchien désigne les choses étranges, voire énigmatiques de la vie. Peu de cinéastes ont droit à cette sorte, enfin moi j'y ai vu une sorte de consécration sémantique. Félinien, lynchien.
C'est comme kafkaïen pour moi, un peu lynchien. C'est-à-dire, si j'avais une correspondance à faire d'un point de vue littéraire, ce serait Kafka, qui de toute façon est un auteur qui fascine Lynch, fascine d'ailleurs beaucoup de gens, mais bon, notamment Lynch, donc ça, c'est pas du coup quelque chose de surprenant. Oui, c'est vrai qu'il fait partie des cinéastes qui nous donnent à voir, qui nous font voir le monde autrement. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vais dire, le monde dans lequel on vit. Quoi. C'est-à-dire, on sort d'un film de David Lynch, ce qu'on voit en sortant n'est plus la même chose que ce qu'on voyait en arrivant. Quoi. Et ça, c'est pas fréquent. Il y a une expérience pour le spectateur, quoi. Vraiment, c'est pas quelque chose, c'est pas simplement un jeu ou un divertissement. C'est très divertissant parfois, ou très séduisant, parfois obscur, parfois incompréhensible. Mais enfin, ça fascine de toute façon et ça pénètre en profondeur, je dirais presque l'âme du spectateur. Donc oui, le côté lynchien. Et puis il y a des marqueurs après. En effet, il y a certaines musiques de Badalamenti en font partie, certains personnages ou certaines images emblématiques en font partie. Je pense que Twin Peaks, encore une fois, qui est un petit peu quand même peut-être le laboratoire central de Lynch, avec ce côté total, avec un fantôme d'intervalle, bon, retour, le film, la série, enfin bon, le prequel, le machin, bon, tout cet univers qu'il a créé de toutes pièces. C'est un peu quand même autour de ça que ça se joue, qu'on pourrait appeler la montée du Lynchien, en quelque sorte. Et avec Mulholland Drive, quand même, qui a parachevé le tableau, parce que c'est aussi le film qui a probablement le mieux marché avec Elephant Man de David Lynch, et dans lequel il y a en effet aussi une fascination des deux femmes, de cet univers nocturne de Los Angeles, enfin bon voilà, tout ce monde-là qui fait fantasmer le spectateur et les musiciens qui reprennent les samples indéniablement. It's a David Lynch moment, and it's special, cause you're there. It's a David Lynch moment, it's so special.
La chanson Sycamore Trees apparaît dans Twin Peaks, la série, mais aussi le film Firewalk With Me de 92, interprétée par Jimmy Scott, composée par Badalamenti, écrite par Lynch lui-même, bande dessinée, photographie, long métrage, série et bien sûr musique. Lynch est inarrêtable, on l'a dit, un boulimique de création.
Il arrive à donner une cohérence globale à son travail d'artiste dans tous les domaines. Si Lynch n'avait été qu'un peintre ou qu'un dessinateur, probablement ça aurait été un artiste capital. Il faut quand même le reconnaître. Mais évidemment, la résonance qui se produit dans tout ce qu'il fait, mais qu'on appréhende la chose en totalité. Donc, je trouve qu'il est un photographe exceptionnel, un excellent photographe. J'aime beaucoup tout ce qu'il a fait comme photo de lieux industriels désaffectés, ce genre de choses. Je suis assez convaincu par ses dessins, moins par sa peinture, je dois dire personnellement, mais ça, bon, là, c'est pas un problème. Musicalement, je trouve qu'il y a des choses très réussies dans ses albums et d'autres moins. Ce sont des albums qui ont vraiment un côté ambiante, mais pas ambiante dans le sens électro du terme, disons de création d'ambiance, quoi, je dirais. Ce qui est au fond aussi quelque chose correspond à ce qu'il est capable de faire au cinéma. C'est-à-dire pour moi, il y a aussi ça. Il y a évidemment le démiurge, qui est le type qui fait des récits labyrinthiques et tout ça, mais il y a aussi le type qui est capable, le cinéaste qui est capable de créer des ambiances uniques avec voilà, des lumières, des musiques, des sons, des mouvements. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de son, je trouve, de son génie.
Le réalisateur semble s'amuser à employer des guests musicales pour ses différents projets. Sting dans Dune, bien sûr, on l'a dit. John Lurie dans Sailor Lula, Chris Isaak et Bowie dans Twin Peaks, Manson dans Lost Highway, et même Badalamenti lui-même dans Mulholland Drive. Est-ce qu'on peut trouver des raisons à cette obsession musicale ?
Simplement que la musique est très importante pour Lynch et que finalement, je pense qu'il s'entend bien avec les musiciens parce qu'ils parlent le même langage qu'eux. J'ai l'impression qu'ils doivent parler au fond la même langue qu'eux. Après, les musiciens sont souvent fascinés par le cinéma aussi, hein, il faut bien le reconnaître. Donc, je pense qu'avec Bowie, par exemple, visiblement, il y avait un lien très fort parce que Bowie a quand même donné son autorisation avant sa mort pour apparaître en tant que citation presque dans la dernière saison de Pif, alors qu'il était déjà plus là. Donc c'est vrai qu'il y avait ce lien, par exemple, avec Bowie qui était très fort, qui apparaît dans le Twin Peaks Firewalk With Me, qui apparaît en fait voilà, en tant que chanteur dans la bande son de Lost Highway. Donc oui, ça fait partie. Chris Isaak a marqué aussi, c'est vrai, dans la période de Sailor et Lula. Je trouve aussi le son du film de Lynch. Donc oui, c'est quelque chose d'assez naturel qui dialogue avec les musiciens. J'ai l'impression que même que c'est peut-être avec ce type d'artiste qu'il est le plus à l'aise, quoi, avec lequel il a le plus d'affinité. Parce qu'au fond, il y a quelque chose de musical dans ces films en profondeur.
À l'image du festival All Tomorrow's Parties qui proposait déjà en Angleterre début 2000, puis ensuite dans différents lieux du monde, une programmation choisie expressément par un artiste en particulier, citons Matt Groening par exemple. David Lynch a créé le sien de festival nommé Festival of Disruption, où il invitait les artistes de toute obédience pourvu qu'ils aient un lien concret ou de cœur avec son travail. John Hopkins, qu'on écoute là, avec ce remix d'un titre du réalisateur-musicien, faisait partie des invités de l'édition 2016, donnée à Los Angeles. Lynch, c'est, on pourrait dire, toute une famille, une galaxie même.
On peut considérer aussi qu'il y a une influence de Lynch sur des groupes du type, je sais pas, Cigarettes After Sex, par exemple, je pense que c'est ça qui me vient à l'esprit, ou il y en a un autre que j'ai oublié là à l'instant, mais enfin bon, voilà, il y a ce type d'univers un peu onirique, comme ça, un peu étrange, qui participe aussi d'un lien avec le cinéma de Lynch. Encore une fois, c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de naturel et il y a une affinité qui s'impose d'elle-même et qui me paraît... c'est vraiment un cinéma qui peut se prolonger dans la musique. Quoi. Voilà, il n'y a pas de frontières au fond. Cinéma et musique sont tellement intimement liés chez lui que tout ça, ça passe de l'un à l'autre. C'est très fluide et très naturel et on s'en étonne même pas. Quoi. Au fond, c'est pour ça que j'ai pas tant de choses à dire que ça, parce que ça me paraît tellement presque normal aujourd'hui, alors que ça l'est pas. Au fond, s'il n'y a pas tant de cinéastes, c'est pas fini là. Enfin. Il y a des cinéastes qui sont très amateurs de musique, mais dont le cinéma, pour autant, ne produit pas cet effet-là chez les musiciens et réciproquement. Donc, bon, mais chez lui, il y a vraiment quelque chose de très marqué par cette affinité-là. Donc oui, ça me semble tout à fait logique.
Avec sans doute mon titre préféré de Lynch, musicien, avec et son premier album studio Crazy Clown Time, aidé par son acolyte Dean Hurley à la production. Comme vous avez tenté de faire dans votre émission Ciné et Tempo, diffusée sur France Musique, est-il donc possible, au regard des différents extraits de ma sélection, de rentrer dans la tête de ce créateur prolifique, inspiré et inspirant ?
Je pense que la musique permet en tout cas d'entrer dans certaines zones un peu plus lointaines de son cerveau. Après, je pense que lui, il n'a même pas accès en totalité à ce qu'il... Non, j'exagère un peu. Non, je pense que lui se met en situation où son inconscient travaille en plein jour. Quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Il faut qu'il soit disponible à son inconscient, quoi, quelque part. Parce qu'au fond, il travaille quand même beaucoup comme ça, par libre association, j'ai l'impression, par des choses qui remontent, à la fois un mélange de souvenirs, parfois, mais aussi de rêves, et puis de trucs complètement imaginaires. Donc, il a une grande liberté et c'est quelque chose... oui, c'est difficile de pénétrer dans sa tête, mais on peut s'en approcher, on peut s'approcher de certaines zones. En tout cas. Et ces zones musicales me paraissent très importantes et très, très profondes chez lui, oui, aident beaucoup à ça. Quoi. Donc, ça m'avait amusé, c'était le titre qui m'était venu à l'esprit comme ça, de manière spontanée. Peut-être justement parce qu'au fond, la musique a cette vertu-là de pénétrer à l'intérieur, au cœur même de certains cinéastes, pas tous, mais certains. On met un morceau qui correspond à leur univers musical et on y est, quoi.
Merci en tout cas Thierry Jousse d'avoir participé à Samplez-moi. Très honoré d'avoir pu recueillir vos commentaires sur finalement quelqu'un qui vous passionne autant que moi, David Lynch, et ses rapports à la musique.
Merci à vous, hein, parce que moi j'étais aussi heureux de pouvoir m'exprimer à ce sujet-là que j'aime beaucoup.
Merci encore Thierry Jousse.
Let's pray.